tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Vendredi 13 septembre, suivez le face-à-face en public et en direct des grandes tables à l'occasion de Cuisine en Friche. Une rencontre entre le paysan, philosophe et essayiste Pierre Rabhi et Carlo Petrini, journaliste et fondateur de l'association Slow Food. Animé par un journaliste de Radio Grenouille, retrouvez cette rencontre sur les ondes des 3-8 le vendredi 13 septembre à 19h et sur radiogrenouille.com.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce face-à-face exceptionnel en direct donc des grandes tables entre deux personnalités importantes de l'écologie. Bonsoir à vous, merci cher public d'être venu aussi nombreux. Il était sans doute impensable de proposer un temps fort sur la cuisine, la gastronomie, du rapport cuisine et culture sans convoquer le double sens du mot culture. Si beaucoup de personnes aujourd'hui identifient souvent la culture ou la civilisation à un état évolué de l'humanité qui s'opposerait selon eux à l'état sauvage que serait celui de la nature, eh bien tel n'était pourtant pas le cas de beaucoup de philosophes, car dès les Lumières comme John Locke qui fonda la philosophie politique sur la loi de la nature. Le terme en latin « cultura » définit l'action de cultiver la terre au sens premier, puis celle de cultiver l'esprit, l'âme, au sens figuré. Le terme culte, d'étymologie voisine, cultus, est employé pour désigner l'hommage rendu à une divinité, mais réfère également à l'action de cultiver, de soigner, de pratiquer un art. Il se trouve par exemple qu'en langue allemande, la définition de la culture individuelle ou culture générale correspond à un mot précis, Bildung, et qu'il existe un autre mot, le mot « culture », qui correspond à un patrimoine social, artistique, éthique, appartenant à un ensemble d'individus. Avec l'avènement d'une modernité devenue rationaliste, individualiste et calculatrice à outrance, plaçant l'homme au centre de tous les processus, un certain anthropocentrisme, d'une certaine manière, fortement encouragé par toute une mythologie du progrès offert par la technique et par la fragmentation des savoirs comme mode de connaissance dominant, nous avons sans doute fini par nous déconnecter du sens premier du mot culture, c'est-à-dire la culture comme action de cultiver la terre, comme soin, comme conscience d'un non-savoir, de l'inconnu, du tout et comme patrimoine commun. Aussi, notre humanité aujourd'hui semble désormais comme hors sol, déclarant la guerre à la vie, oubliant l'une des plus importantes leçons de l'Antiquité, celle de ne jamais se prendre pour des dieux. Comment donc sortir de cette crise écologique, elle-même qui semble être une crise de civilisation? Quel humanisme est à reconstruire? De quel New Deal nous avons tous besoin? Comment habiter définitivement différemment le monde? Ou encore, que peut l'agro-écologie? Des questions ouvertes, et pour en discuter, deux invités, donc deux personnalités, comme je disais, importantes de l'écologie. Pierre Rabhi, bonjour.
Bonjour.
Pierre Rabhi, vous êtes paysan, philosophe et essayiste. Vous êtes d'origine algérienne, inventeur du concept « Oasis en tout lieu ». Vous êtes une figure importante de l'écologie, vous êtes considéré aussi comme un artisan de l'altermondialisme. Vous défendez un mode de société plus respectueux de l'homme et de la terre et soutenez le développement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et préservant les ressources naturelles, notamment autour donc de l'agroécologie dans les pays arides. Vous animez régulièrement des conférences ou des ateliers sur les thèmes de la simplicité volontaire et aussi sur les thèmes de la décroissance. Vous avez fait partie du comité éditorial, d'ailleurs, du mensuel La décroissance. Sans doute vous en faites encore une partie ou non. Quelques ouvrages quand même assez importants. L'agroécologie pour nos enfants, édition Actes Sud en 2013. Vers la sobriété heureuse, toujours en Actes Sud. Éloge du génie créateur et de la société civile, Actes Sud. Et manifeste pour la terre et l'humanisme, pour une insurrection des consciences, c'était en 2009. Il est important de dire quelques mots sur votre parcours. Vous avez d'abord été ouvrier spécialisé, puis vous avez décidé dans les années 60, tout début des années 60, de vous installer en Ardèche, précédant ainsi le mouvement dit néo-rural des années 60. Et puis après 3 années comme ouvrier agricole, vous devenez vous-même paysan dans les Cévennes ardéchoises et vous vous lancez dans l'élevage avec l'intention de ne pas donc reproduire les modèles de productivisme et vous expérimentez l'agriculture biodynamique. Dans les années 80, vous créez un centre de formation autour de l'agroécologie et dans les années 90, vous proposez un programme de réhabilitation de l'oasis de Chenini Gabès en Tunisie et vous animez le mouvement Oasis en tout lieu visant à promouvoir le retour à une terre nourricière et la reconstitution du lien social. À la fin des années 90, vous lancez Terre et Humanisme, une association qui a pour activité la promotion et la transmission de l'agroécologie. Enfin, dans les années 2000, avec Michel Valentin, vous créez les Amanins, un site agroécologique dans la Drôme. L'association Les Amanins travaille autour de trois axes, l'agriculture, l'éducation et la construction, sous la question « Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?» mais aussi « Quels enfants laisserons-nous à la planète ?» Plus récemment, c'est le mouvement Colibri qui vous anime, un mouvement dont la mission est d'aider chacun à construire, à son échelle, de nouveaux modèles de société fondés sur l'autonomie, l'écologie et l'humanisme. Colibri a été l'un des acteurs majeurs du lancement de Resalis lors des assises pour une alimentation de proximité à Niort, en partenariat avec Slow Food. Ce sont près de 300 professionnels intéressés par les circuits courts et la restauration hors domicile qui sont venus découvrir le projet Resalis, c'est-à-dire une expérience globale pour des réseaux locaux, pour tenter à l'autosuffisance alimentaire à l'échelle d'un département. Le concept de Resalis trouve également son origine dans la notion d'éco-région. Alors, entre paysans, philosophes et essayistes, finalement, dans lequel de ces trois termes vous vous reconnaissez le mieux, Pierre Rabhi?
Je crois qu'on ne peut pas les dissocier. Si vous voulez, moi, quand j'ai abordé la Terre, c'était justement pour des raisons philosophiques. Ce n'est pas seulement pour des raisons d'agriculture. C'est-à-dire que je remets radicalement en cause notre modèle de société qui, en fait, privilégiait l'argent, le lucre au détriment de la vie. Donc, c'était l'une des raisons pour laquelle il faut un tout petit, si je me permets, un tout petit peu préambule qui est quand même important pour la compréhension. D'ailleurs, je me retrouve un peu comme chez moi durant le temps des charmeurs de serpents, vous voyez, chez nous, c'est comme ça, à périphérie. Donc, il y a un précédent, c'est que, qui est, à mon avis, important pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion peut-être d'aborder ces questions de mon itinéraire particulier. Mon itinéraire particulier, il est... Ça ne focalise pas sur Pierre Rabhi, si vous voulez. Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, le destin a fait que je suis né dans le désert d'une famille musulmane. Ma mère est morte, malheureusement trop tôt, à tel point que je ne me souviens plus du tout d'elle. Mon père forgeron, musicien, poète, se pose la question sur l'avenir. On découvre du charbon dans notre territoire. Tous ces éléments sont significatifs. Et quand on découvre le charbon, eh bien, finalement, c'est comme ça qu'il y a eu un basculement de toute notre culture depuis des siècles. Si vous voulez, on est allé chercher, exhumer cette matière noire du sol et c'est devenu donc... notre région est devenue une mine et mon père ne pouvait plus suffire à ses besoins, aux besoins de sa famille. Et donc, il m'a confié à un couple de Français venus travailler là-bas sous l'égide de la colonisation, bien sûr, et sans enfants. Et j'ai été confié pour être éduqué parce que le souci de mon père, c'était que j'acquière les connaissances qui me seront utiles dans l'avenir nouveau, dans le nouveau paradigme. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Une des caractéristiques à signaler quand même, c'est que je suis passé d'une culture traditionnelle à la culture dite moderne, de l'islam au christianisme. D'une culture où on dit il faut surtout pas toucher aux cochons, c'est prohibé, etc. Une culture où on se régale avec du saucisson, vous voyez. Donc il y a toutes ces contradictions, si vous voulez, c'est comme ça que les choses ont démarré. Et c'est peut-être ce qui a préparé un certain regard sur le monde.
Et nous le verrons que cette contradiction, nous avons à les tenir aujourd'hui, à tenir ensemble tradition et modernité. Carlo Petrini, bonsoir. Carlo Pretini, vous êtes journaliste, sociologue, critique gastronomique italien, et vous fondez en 1983 l'association Agricola, qui, entre autres, posera les bases idéologiques et stratégiques du mouvement Slow Food, célèbre désormais mouvement. En 2004, vous avez lancé Terra Madre. Terra Madre, c'est une rencontre mondiale des communautés nourricières qui a réuni à Turin, lors de son premier rassemblement en 2004, 5000 producteurs, 150 pays du monde entier. Quelques mots sur Terra Madre. Terra Madre est un ensemble de réseaux travaillant avec la nourriture et pour la nourriture. Il est composé de paysans, de pêcheurs, de nomades, de cuisiniers, d'universitaires, de producteurs, mais aussi de musiciens. C'est un réseau permanent pour la construction d'un nouveau modèle économique agricole, alimentaire et culturel. Il vise à mettre en pratique ce qui a été appelé le glocalisme, c'est-à-dire un ensemble d'actions à l'échelle locale avec des objectifs d'envergure mondiale. Aussi donc, c'est un projet dont les objectifs s'étirent sur des temps très longs et que vous-même vous dites qu'ils tendent vers l'infini. C'est aussi à la fois, et c'est important, l'expérience d'une démocratie participative et l'expérience d'une économie réelle, locale, de la nature. Je voudrais préciser quelques ouvrages. Slow Food, manifeste pour le goût et la biodiversité. Bon, propre et juste, éthique de la gastronomie et sauvegarde alimentaire. Et Terra Madre, un ouvrage important, renouer avec la chaîne vertueuse de l'alimentation. C'était en 2011. Alors, Carlo Pretini, peut-on dire de vous que vous avez fait le choix, vous avez décidé de passer de l'état de consommateur à celui de coproducteur?
Oui, je pense que cette idée de... Je m'excuse avec vous si je ne parle pas bien le français, aussi à les personnes qui vont écouter ça dans la radio, hein, mais vous avez voulu un italien, alors... Je pense qu'il est très important, cet mot coproducteur, parce que toute notre culture, contaminée dans un concept que c'est le consommateur. Le concept de consommateur, il est né seulement 3 siècles avant, avec la révolution industrielle. Et c'est un concept de maladie, de consommation. Et jamais, comme dans cette période ici, la maladie, il a permis une situation dans les environnements très, très mauvaise. Si nous allons appliquer les concepts des consommateurs à la nourriture, nous avons accepté un système alimentaire qui, dans ce moment ici, c'est un système criminel. Le système alimentaire dans lequel nous vivons maintenant, c'est criminel. Nous devons comprendre ça parce que on va confondre la productivité avec le productivisme. Et toute l'économie, il s'est engagé sur le productivisme. De cette manière, l'agriculture, il a perdu son esprit original. Son esprit original, c'est d'avoir une dimension holistique et au service de la subsistance. Si nous allons faire de la gastronomie et de l'alimentation une chose, ludique, seulement ludique, et seulement pour l'argent, nous avons détruit l'alimentation et l'agriculture. C'est ça, c'est très mauvais. Par exemple, au niveau de la gastronomie, maintenant, dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde, si tu veux allumer une télévision, à midi, à la matin, à la soirée, dans la nuit, il y a des personnes qui potagent et parlent, des cuisiniers et parlent. C'est ça, c'est pas la gastronomie. C'est ça, c'est pornographie alimentaire. la pornographie alimentaire, qu'il parle seulement de les recettes, et ne parle pas des produits. On ne parle pas des paysans qui font les produits, on ne parle pas des pêcheurs, on ne parle pas des environnements, on ne parle pas de la destruction de la biodiversité. Non, seulement le spectacle. Et c'est ça, c'est une chose qui n'est pas dans notre esprit, il n'est pas dans notre histoire. Il n'est pas dans notre histoire. Beaucoup de personnes ont dit, ah, quelle est la vraie histoire de la gastronomie? La vraie histoire de la gastronomie, c'est une seule. La famine, la fame, l'hambre, la fame, ecco.
La fame.
Et aussi, la vraie histoire de la gastronomie, c'est la femme. C'est la femme. Parce que tout le monde parle de gastronomie, les chefs étoilés, et rien, il va à remercier les millions des femmes qui, dans chaque pays du monde, il a fait les plus grands produits de gastronomie avec pas beaucoup de choses, avec une économie de subsistance. Rien. On ne dit pas que c'est ça, c'est créatif. Non. Il est créatif, l'art culinaire du grand chef. Et pas la vie quotidienne des millions de femmes qui, dans chaque pays du monde, ils réalisent la gastronomie essentielle, la gastronomie véritable.
Dans le mouvement Terra Madre, d'ailleurs, vous précisez que le mouvement ou les personnes qui sont partie prenante dans Terra Madre sont des gens qui ont décidé de ne pas se faire manger par la nourriture, justement. Pierre Rabhi, vous proposez une société finalement qui libère du temps pour être jamassé quand vous dites finalement que nous sommes dans une société de l'avoir et qu'il faudrait passer à une société de l'être.
Je vais me permettre quand même de reprendre un tout petit préambule, c'est-à-dire que l'agriculture est apparue il y a 10 à 12 000 ans. Avant, c'était des hommes qui parcouraient l'espace et qui étaient dans un régime de cueillette. Cueillette, chasse, pêche, vous savez. Voilà. Et puis, l'agriculture est advenue relativement tard dans l'histoire de l'humanité. Et c'est au moment où l'être humain a compris, et ça, j'ai un ami archéologue qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, c'est-à-dire que l'être humain, qui était chasseur-cueilleur, il parcourait l'espace et il prélevait tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il pouvait le nourrir. Et par exemple, la civilisation du blé, ça a été une civilisation dans laquelle le blé de l'époque était sauvage, mais déhissant. C'est-à-dire qu'il n'était pas fixé dans l'épi. Pour des problèmes de reproduction, quand le grain était mûr, il tombait au sol. Et il tombait au sol et les personnes venaient avec un bâton pour essayer de récupérer. Ils avaient des petits sacs, ils récupéraient les graines comme les oiseaux, comme tout le monde. Voilà. Et ils ont remarqué que là où le terrain a été remué, quand les blés oubliés, c'est-à-dire que les grains oubliés, repoussaient mieux. Voilà, repoussaient beaucoup mieux qu'à côté. Ça a été le problème du sarclage, c'est-à-dire de faire qu'une graine ne soit pas gênée par d'autres graines et qu'elle ne soit pas en concurrence avec d'autres végétaux. Et c'est comme ça que petit à petit, cette sensation qu'a eu l'être humain de dire « Tiens, je peux contribuer à la production de ma nourriture. Je ne suis plus seulement dépendant de ce que la nature me donne. Je peux contribuer et je vais collaborer avec la nature. » Et à ce moment-là, naît l'agriculture. Et il ne faut jamais oublier que l'agriculture, c'est elle qui a donné ses lettres noblesse à la culture. L'homme est devenu cultivé à partir du moment où il n'était pas restreint uniquement par les lois de la nature et où il a passé une espèce de contrat avec la vie pour dire, voilà, je collabore avec la vie. Voilà. Et c'est comme ça qu'a démarré, si vous voulez, cette épopée de l'agriculture. Avec, évidemment, la traversée des siècles, et l'être humain est regardé dans l'environnement sauvage, il prenait telle espèce, telle autre, il l'essayait, et il voyait que ça pouvait le nourrir. Et donc, ça a été une épopée extraordinaire. Vous voyez, donc ce préambule est absolument indispensable pour savoir comment on est arrivé à ce où l'homme éveillé c'est le seul qui est capable en quelque sorte de ne pas se contenter de ce qui existe, mais il est capable de cultiver et donc de remplir ses greniers, et c'est comme ça que les civilisations ont pu naître, pour le meilleur et pour le pire.
Et oui, parce qu'en même temps, aujourd'hui, on a le sentiment d'une humanité, comme je le disais tout à l'heure, hors sol. Une humanité qui le fantasme de pouvoir complètement échapper à la nature.
C'est-à-dire que les civilisations, par l'agriculture qui ont grandi, ont été des civilisations dont on admire aujourd'hui les vestiges, les pyramides, tout ça. Jamais, sans la céréale que l'Égypte maîtrisait, il y aurait une civilisation égyptienne. Comprenez ? Donc on passe à ce qu'on appelle le stockage. Et quand vous stockez, vous vous mettez en sécurité. Vous pouvez dormir tranquille puisque vous avez stocké. Donc l'esprit étant libéré de cette obsession de la survie par le stockage, on peut vaquer à des discours. Quand vous êtes en train de vous demander si vous allez attraper un lapin ou pas un lapin, etc., c'est l'obsession, c'est est-ce que je vais avoir à manger. Mais quand vous stockez l'alimentation, donc ça vous permet d'apaiser votre esprit et d'aller vers ce qu'on appelle la culture. Donc c'est très important de dire que l'agriculture a été le moment où l'être humain a créé sa sécurité alimentaire. Il n'est plus dépendant des aléas, de la nature, etc. Et donc c'est très important de savoir que l'agriculture est fondamentalement ce qui a permis à l'humanité d'évoluer pour le meilleur, mais aussi pour le pire.
Carlo Petrini, comment vous expliquez là où on en est aujourd'hui, finalement, quant à la manière dont nous cultivons, à cette agriculture intensive? Il n'y a pas très longtemps, ne serait-ce que, je crois, aujourd'hui, pas plus tard, il y a quelques heures, il y a un projet d'une ferme d'élevage intensif, 1000 vaches. Comment, selon vous, on en est arrivé à ce paradigme?
Mais le paradigme dominant, c'est, comme j'ai dit, un paradigme de productivisme. C'est ça, il a permis un désastre au niveau des environnements, parce que nous avons perdu, dans le dernier siècle, les 75% de la biodiversité. C'est-à-dire qu'ils ont été privilégiés l'espèce génétique plus forte, qui peut voyager, qui peut aller dans les grands magasins. Et au niveau local, nous avons perdu des espèces génétiques qui eran merveilleuses et que maintenant, ils n'existent pas plus. Alors, l'idée d'un concept productiviste, il n'est pas une idée en harmonie, comme l'a dit Pierre, avec la nature et aussi avec l'humanité. C'est seulement en fonction de la réalisation d'argent. Et alors, comment nous pouvons réaliser un nouveau paradigme? La chose la plus importante, c'est reconstruire une économie locale, une agriculture locale, et dans cette manière devenir coproducteur. Parce que le mot coproducteur, on ne peut pas comprendre bien si nous n'allons pas à réfléchir sur le travail que nous devons faire personnellement. Être coproducteur signifie qu'on est bien les paysans locaux, qu'on est bien les produits locaux, qu'on est bien l'économie locale, et dans le même temps, être voisin à les jeunes qu'il va à engager une nouvelle vie avec l'agriculture biologique, avec des nouvelles idées. Et pour faire ça, il n'a pas l'aide de la politique et l'aide de l'économie. Non. Au niveau national, au niveau régional, au niveau européen, il est plus fort le productivisme que la productivité locale et qui travaille pour les environnements. Alors, les paysans, maintenant, sont la part plus pauvre de notre société, plus minimale. Alors, pour changer le paradigme, nous devons être coproducteurs et comprendre que quand nous allons à manger, quand nous allons à manger, nous faisons un acte agricole. Si je mange le produit d'une jeune qui travaille avec un système qui respecte les environnements biologiques, qu'il est local, j'ai fait un choix politique de changement. Si je mange le produit industriel avec agriculture intensive qu'il voyage à travers les continents, j'ai fait un autre choix. Et alors je suis complice. Je suis complice des désastres. Nous sommes complices des désastres dans la manière que nous allons à manger. Alors, être coproducteur signifie que chacun de nous, il peut devenir sujet actif pour le changement de l'agriculture. Je ne suis pas paysan, mais je veux être paysan avec la manière que je vais à manger. Je mange une manière qui va à aider les paysans locaux de ma région, qui travaillent bien et qui ont besoin d'un nouveau concept, comment dire, de cohésion sociale. Le productivisme, il a détruit la cohésion sociale. D'un part, le consommateur et de l'autre côté, les producteurs. Non, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Si nous allons à détruire l'alliance coproducteur et producteur, nous avons à détruire le futur des nouvelles générations.
Pierre Rabhi, vous êtes d'accord avec cette parole qui finalement dit que nous avons tous une responsabilité partagée.
Tout à fait. Il faut revenir simplement. Enfin, je m'excuse de reprendre aussi un petit peu le fil de ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est-à-dire que pendant longtemps, évidemment, l'agriculture avec le grenier plein permet la pensée et l'avènement des civilisations. Seulement, ces civilisations n'ont jamais été vraiment sages. Aujourd'hui, nous admirons les pyramides d'Égypte, mais on ne se rend pas compte que c'était des forêts, la civilisation, malheureusement, c'est le côté négatif de la destruction du milieu naturel par l'extension de l'agriculture. Donc, elle n'a pas eu que des éléments positifs. En plus, c'est parce que Jules César avait son stock d'alimentation qu'il voulait aller casser la figure aux autres. Parce que sinon, il n'aurait pas pu. Il serait parti dans quelque chose d'aléatoire. Ensuite, s'est instauré ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, où on restitue à la terre le fumier que les animaux donnent. On donne à manger à l'animal. L'animal mange, fait du fumier, le fumier est restitué à la terre. Donc il y a un cycle, si vous voulez. L'animal contribue au cycle que l'on retrouve dans la nature, c'est-à-dire quand un arbre pousse, il prend des substances dans la terre, il prend de l'énergie dans le cosmos. Et en automne, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, vous avez des feuilles qui tombent au sol. Ces feuilles qui tombent au sol sont transformées en humus. L'humus va de nouveau relancer la vie. Et ce n'est pas pour rien que humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même chose. Donc tout ça fait partie du cycle. Ensuite arrive la civilisation moderne. Vous savez, le moteur à explosion. Le cheval vapeur à la place du cheval animal, etc. Donc modification, et on veut industrialiser l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait par l'industrialisation de l'agriculture ? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir recours à du fumier, etc., parce qu'on va produire des substances que l'on met dans le sol. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin on crée des substances chimiques. Ces substances chimiques, il faut savoir que la plupart étaient destinées à la guerre. Les nitrates, les phosphores, tout ça, c'était destiné à des explosifs. Les usines produisant ces substances-là, quand les guerres sont finies, on dit, mais on ne peut quand même pas arrêter l'usine à profit. Donc on oriente l'agriculture sur deux prescripteurs. Un prescripteur agricole qui prescrit des engrais chimiques, vous savez le fameux NPK, vous mettez le NPK dans le sol, et puis ce NPK dans le sol va effectivement doper le sol, et le sol étant dopé, c'est spectaculaire, il produit beaucoup. Seulement ce qu'on ne voit pas, c'est que ce dopage, il équivaut à la destruction du sol. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de microbes, plus de vers de terre, plus rien. Donc vous voyez, un élément qui est destiné à la guerre, transposé à l'agriculture, ça donne un prescripteur agronome de produits de la chimie, et vous avez un médecin qui est prescripteur des médicaments des laboratoires pharmaceutiques, et tout cela appartient à la pétrochimie internationale. Et tout le problème aujourd'hui, c'est l'orientation en quelque sorte du profit par la pétrochimie internationale qui a déterminé et l'agriculture et la médecine.
Alors, si vous le voulez bien, puisque nous arrivons à la moitié de cette émission, il me semble que c'est important aussi maintenant qu'on aborde des formes, disons, de mise en pratique concrètes, des solutions concrètes que vous travaillez, vous deux, dans vos endroits respectifs, et aussi en se posant la question de celle de, un, aujourd'hui, comment produire pour tous, avec cette exigence que la qualité soit première par rapport à la quantité. Et puisqu'on est à Marseille et qu'on est dans une ville, il faut aussi se poser la question de la ville. Peut-être qu'on peut, Pierre Rabhi, commencer par nous expliquer un peu ce travail que vous menez d'agroécologie et puis aussi cette notion d'oasis.
Alors, la ville est une monstruosité. C'est-à-dire que c'est une concentration humaine considérable au détriment d'un espace agricole dénudé. Et non seulement dénudé, mais tué. L'alimentation qui est produite aujourd'hui, quand on se met à table, il vaut mieux souhaiter bonne chance que bon appétit. Parce qu'on avale des choses qui ont des nuisances dans l'organisme. Ces nuisances viennent par le fait que quand on tue un sol, avec des substances chimiques à grande faculté osmotique, ça coupe la chaîne de tous les oligo-éléments. Ce qui fait que nous mangeons de la nourriture morte, en fait. Voilà. Donc à cela, il faut donner une réponse. Nous, ce n'est pas d'aujourd'hui. Disons, quand on a fait notre retour à la Terre en 1961, ben, nous avons opté immédiatement pour une agriculture qui prenne en compte le fait qu'il faut que la Terre soit soignée. Elle me soigne, mais il faut que je la soigne. Elle ne va pas me nourrir et moi la tuer. Ce que dit Carlos, c'est une monstruosité aujourd'hui. C'est un drame immense dont les gens n'ont pas conscience. C'est ça qui fait vraiment mal, parce qu'on se dit, mais c'est une transgression gigantesque, mais le bon peuple n'y comprend rien. Voilà. Il est victime de cela. Mais quoi. Alors après, évidemment, les pathologies en grand nombre, etc. Et après, on s'étonne que les pathologies sont en augmentation. Bien sûr, si on se nourrit mal. Alors, il y a des alternatives. Ça fait des années et des années que je mène l'alternative agroécologique, agrobiologique. Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de comprendre ce que la nature a fait. Qu'est-ce qui se passe dans une forêt ? Une forêt, les arbres poussent, ils grandissent, ils s'épanouissent. Et en automne, vous avez des feuilles qui tombent au sol. Les feuilles qui tombent au sol rentrent dans un processus de transformation. Et ça produit de l'humus. Et l'humus, c'est l'élément clé à partir duquel la vie rebondit. Vous voyez, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est la loi qui est appliquée comme ça. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique bien comprise ou écologique bien comprise ? Je ne vais pas faire le malin à faire autrement que je vais déjà comprendre comment la nature fait. Et je vais imiter la nature. Les déchets de ma ferme, je vais les transformer en humus, en compost, je vais composter, je vais remettre à ma terre. Ma terre va se réjouir. Je vais lui apporter des concentrés de bactéries, parce qu'il faut, dans ce cycle-là, il y a des bactéries, il y a des vers de terre, il y a des insectes, il y a tout ce cheptel qui travaille sans jamais faire grève. Ils ne sont jamais payés, mais ils travaillent jour et nuit sans grève. Là, ceux-là, ils travaillent pour nous. Vous voyez ? Et à partir de là, vous êtes au cœur de la dynamique de la vie, qu'on a complètement modifiée, tragiquement. Je suis d'accord avec Carlo Calvi, il insiste sur le fait que c'est une tragédie. Je répète, c'est une tragédie. Avoir une agriculture qui, pour produire, doit détruire, qui ne peut pas produire sans détruire, ça veut dire qu'on est sur une voie de suicide. C'est tout. Voilà. Donc, il y a des méthodes. Je peux m'expliquer après, si vous le souhaitez, sur les méthodes actuelles. J'ai fait de l'agriculture biologique dans l'hémisphère nord et je fais de l'agroécologie dans l'hémisphère sud, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous parlons d'alimentation. Mais pendant que nous parlons, des enfants meurent de faim. Ils n'ont même pas accès à la nourriture. Il ne faut quand même pas qu'on se recentre sur l'Occident et oublier que des enfants, il y a 1 milliard d'êtres humains qui meurent de faim, il y a 3 milliards qui sont à peine nourris, Et nous, on mange tellement qu'on est malade.
Et quand je disais pour tous, c'était y compris les plus pauvres et y compris effectivement aussi cette partie-là de la planète. Carlo, avec les expériences de Terra Madre, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il se joue de manière concrète dans ce mouvement qui est Terra Madre comme forme aussi de réponse concrète à la situation?
Avant tout, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer qui les solutions qu'il donne Pierre, qu'il donne beaucoup de personnes dans le monde, et aussi les mouvements écologistes, sont beaucoup de personnes qui disent oui, vous dites de belles paroles, mais vous êtes utopiste, vous êtes poète. La réalité, la modernité, c'est une autre chose. Alors, nous devons avoir l'orgueil et la force de dire que nous ne sommes pas utopistes, nous sommes poètes, parce que la poésie, c'est fondamental, mais les solutions que nous allons proposer avec le retour à un bon rapport avec la terre, avec le nouveau concept d'agriculture qui respecte la fertilité du sol, qui respecte l'eau, qui respecte la biodiversité, c'est une chose moderne. C'est l'unique paradigme qui peut sauvegarder la planète. Et dans le même temps, c'est une chose vraiment économique. Beaucoup de personnes disent, oui, vous parlez de cette chose, mais vous êtes au dehors de l'économie. L'économie, c'est une autre chose. Alors, je dis une chose. Dans ce moment, cette crise, il est une grande opportunité, parce que la crise, il fait réfléchir où nous sommes arrivés. La folie totale. En Italie, le paysan, pour vendre un kilo de carottes, 7 centimes, 7 centimes d'euros. Un litre de lait, 32 centimes. Mais la civilité de l'agriculture, où elle est? Nous avons perdu la mémoire. 32 centimes pour un litre de lait. Et le lait, il va être recueilli dans les grandes centrales. Il porte via le grasso. Il élève le gras il va pour l'industrie de biscuits, et avec cette lait appauvri, avec cette lait appauvri, il vient confectionné dans les cartons, il est vendu à 1 euro. Que si vous voulez manger des vitamines, mangez les cartons, parce que le lait, il n'a pas rien. Mais, dans le même temps, il y a des personnes qui n'ont plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les laits empauvris, il va ajouter le oméga 3. Ah, l'oméga 3, que fantastique l'oméga 3. Il fait des restyles. Alors, les laits avec les restyles, 1,60 €. Les laits qu'il sait de rien, 1 €. Et à les paysans, 30 centimes. Mais c'est ça, cette économie? Non, ce n'est pas l'économie, c'est ça. Économie, dérive dans le grec. Oikonomos. Oiko, maison. Nomos, gouverner la maison. C'est ça, c'est l'économie. Cet concept actuel d'économie, il ne gouverne pas la maison, la planète. Il détruit la maison. Et alors, quand nous allons à parler avec l'esprit de Pierre, l'esprit de beaucoup de personnes dans le monde, on ne doit pas accepter d'être relégué dans une part comme des poètes, des utopistes, des personnes qui n'ont pas l'économie. Non, nous sommes l'économie nouveau. C'est ça, c'est l'économie de la libération. Il est devenu le temps de retourner et reprendre l'économie et utiliser l'économie pour la libération, par rincoglionimento. Non. L'abêtissement, la gastronomie pour la libération. La gastronomie peut être une aide fondamentale avec les paysans. La gastronomie peut être une aide fondamentale par la construction personnelle. La gastronomie peut devenir un sujet très utile pour la cohésion sociale, pour le plaisir, pour l'harmonie avec la nature. Si la gastronomie, c'est seulement ludisme et seulement froufrou, non. Merci. En Italie, on ne parle pas comme ça, hein, mais c'est le mot qui est difficile. Hein.
Cette manière-là de, aussi d'être dans un travail finalement d'éducation, hein, d'éducation populaire, de donner l'information, surtout aujourd'hui par rapport à la situation où on ne sait plus très bien entre sécurité et information, quand on a de l'information sur les produits alimentaires, on ne sait plus de quoi cela relève. Donc ce geste que vous faites, là, qui est celui de l'éducation, c'est aussi quelque chose, celui de l'éducation populaire, par exemple, que vous prenez en compte dans le mouvement comme Colibri, parce que vous fondez et que vous développez tout un travail d'éducation populaire sur aussi la question de l'autosuffisance, par exemple.
Ben moi, j'ai écrit plusieurs livres. Il y a un livre qui s'appelle le concept d'oasis en tout lieu, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer des communautés humaines solidaires, axées et centrées sur la terre nourricière, sur l'autonomie produite par cette terre nourricière. On a bien sûr lancé les colibris parce que c'est... vous connaissez un peu la légende, voilà, je répète un tout petit peu. Le colibri, c'est quoi ? Ben, c'est une légende amérindienne que j'avais lue et qui m'a tout de suite séduit. Cette légende dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux atterrés, impuissants, ne pouvaient rien faire. Par contre, le petit colibri, il va prendre quelques gouttes d'eau, il les jette sur le feu et il s'active. Et à un moment, il y a le tatou qui lui dit quand même, tu ne penses quand même pas que c'est avec ça que tu vas éteindre le feu. Et le colibri dit au tatou, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et ça m'a paru absolument fondamental aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire les multinationales, les ceci, les cela. Aujourd'hui, c'est une question de comportement individuel. Nous sommes dans une société où le superflu a plus d'importance que l'indispensable. Et nous sommes dans une société occidentalo-centrée qui pense que le monde tout entier est visible à partir des gens, des nantis. Aujourd'hui, on est même plus nantis, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'économie intègre la question de la finance. Et vous savez, ceux qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, c'est ceux qui gagnent de l'argent en dormant, pas en travaillant. C'est-à-dire l'argent devenu producteur d'argent. Donc on ne peut pas mettre ça dans la rubrique économique, comme tu l'as décrivé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a en fait le superflu ayant étant illimité, on ne répond pas à l'indispensable. Et ça, c'est une tare et c'est une difficulté de l'humanité tout entière qui doit réviser en quelque sorte sa vision globale sur la planète, parce qu'on ne peut pas appliquer une économie de la prédation permanente, de la dissipation permanente, parce qu'on va arriver aux limites des ressources aussi. Aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a de moins en moins de poissons, que les forêts sont ravagées. En fait, nous sommes sur une biosphère que nous sommes en train de détruire littéralement au détriment des générations futures de toute façon et au détriment de tout le monde. Je me permets d'insister sur ces questions parce qu'elles sont absolument fondamentales si nous voulons, en quelque sorte, nous, notre objectif, c'est pas ravistoler le modèle. C'est même pas que manger bio. Vous pouvez manger bio, recycler votre eau et exploiter votre prochain. Ce n'est pas incompatible. On peut parfaitement exploiter son prochain en lui vendant du bio. Donc le problème n'est pas de dire, parce qu'on va manger bio, le monde va changer. Le monde changera quand nous changerons. C'est-à-dire notre vision des choses. Quand nous serons dans une véritable morale individuelle. Parce qu'attention aux alternatives. Et même la bio est récupérée par la grande distribution. Et si les gens disent, parce que je gagne quelques centimes à la grande distribution, je préfère acheter à la grande distribution qu'acheter chez le paysan qui, lui, déjà, il y a des dérives. Donc je ne crois pas du tout qu'il faille se dire parce qu'on va manger bio, parce qu'on va recycler notre eau, parce qu'on va, etc., on va changer la société. Je n'y crois pas.
Carlo, vous êtes d'accord avec ceci, sur le fait que ce n'est pas en décidant de manger bio, en s'impliquant sur ce genre de choses, qu'on va changer la société? Le changement se fait ailleurs dans la tête, il se fait dans la manière de penser, d'exister autrement?
Absolument. Cet système, il montre dans ce moment sa violence et l'injustice. Injustice, c'est une chose pas de ce moment ici. C'est une injustice générationnelle. Nous allons détruire la planète pour notre fils et les fils de notre fils. C'est l'injustice. Et nous devons absolument changer, pas seulement les paradigmes, mais aussi la politique. La politique, on ne parle pas de ça. La discussion, ce n'est pas de cette chose ici. Rien. L'autre jour, je suis allé à la communauté européenne où le commissaire de l'agriculture il a ouvert une table avec beaucoup d'associations et dans le même temps avec l'industriel, la production intensive. Oh, quelle expérience incroyable! Slow Food, Greenpeace, Via Campesina, tous les groupes qui travaillent avec une nouvelle idée d'économie et de production alimentaire. Le document qui a été présenté, il commence comme ça. Dans le monde, il y aura des problèmes pour la famine. Nous devons dans les 2050, le monde, il y aura 9 milliards de personnes. Alors, nous devons produire plus. Et toute l'industrie et les grands producteurs européens, avec un sourire comme ça. Alors, pour dire ça, cet mot, et dans les documents, il va utiliser une chose qu'il a dit la FAO, et c'est vrai, nous devons produire en plus, mais où? En Afrique, dans l'Amérique latine, avec l'aide que nous pouvons donner pour l'eau, pour réaliser une agriculture plus productive, pas dans l'Europe. Parce que si nous allons produire plus dans l'Europe, cette produit européenne qui, avec la monnaie européenne, il va vendre dans l'Afrique et il fait des dumpings. Il va détruire l'économie des petits paysans africains. Il doit terminer cette violence. C'est une violence. Alors, de qui nous allons parler? Nous allons parler que dans ce moment, dans le monde, nous allons produire nourriture pour 12 milliards de personnes. Nous, dans le monde entier, maintenant, sommes 7 milliards. 1 milliard, il ne mange pas. Il a la malnutrition et la famine. Et dans cette période où nous allons payer 7 centimes les carottes et 32 centimes le lait pour les paysans, il a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas. Et il a un gaspillage jamais aussi incroyable comme en ce moment. C'est à peu près les 40% de toute la production globale de la nourriture, il va dans la poubelle, il va être détruit. C'est la folie, c'est pas l'économie. Il n'est pas l'économie, ça. C'est la folie. Alors, nous devons changer, et il a raison. Le changement doit partir de individuellement.
Mais alors, simplement.
Écoutez-moi. Oui. Ce soir, quand vous retournez à votre maison, le pape dit date un bacio ai vostri bambini. Ok, non. Mais après que vous avez donné un bacio ai vostri bambini, ouvrez le frigo. Regardez que tombe des famiglie que nous tenons dans la maison. Il a. Prezzemolo, come si dice? Il a des persils, qu'il est 20 jours, qu'il est dans les frigos. Et de moi, fais quelque chose. On ne peut pas plus rester dans les frigos. Il a des bases de compost qu'il, avec une piccola bouffa. Comment si dice bouffa?
De la moisissure.
De la moisissure, légère, légère. Et quand il monte, après, dans les frigos, dans la poubelle. Nous ne devons pas faire de grands discours politiques. Nous devons changer la notre vie. Nous devons retourner. Pensez, si nous pouvons parler avec notre grand-père, mais notre grand-père, non, et dire, tu sais, mon grand-père, que je vis dans une société où on ne paye plus pour démagrir que pour manger. Le grand-père dit, non, c'est pas possible, tu es folle. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que dans cette période ici, en Europe, les Européens, ils payent plus pour la démagrir que pour manger. Les produits light, toute la production, on va dans les diétologues comme une fois le monde va dans les prêtres, comme si dicono i preti. Les prêtres, les nouveaux prêtres sont les diétologues. Ah, j'ai un problème, j'ai la pince. Oh, grande, mange bien. Fantastique. 300 euros. Tu payes 300 euros, il a dit, mange bien. Alors, mange moins. Alors, c'est la folie. Je pense que nous avons l'opportunité avec cette crise d'échanger. Mais la sobriété heureuse, c'est la roue principale. C'est les nouveaux paradigmes, ils passent avec une sobriété, mais avec la joie, la félicité.
Pierre Abbi.
Oui, mais merci, Joe. Évidemment, il y a le problème de la démographie dans le monde mériterait beaucoup plus de temps de développement parce que la misère, on l'a produite. Vous prenez un pays comme le Burkina Faso. J'ai commencé à travailler au Burkina Faso en 81. C'était une culture de paysannerie ou de famille. C'est-à-dire que les familles cultivaient leur jardin, leur lopin de céréales, etc. On vient avec la nouvelle donne. On leur dit, mais maintenant, il faut que vous cultiviez pour exporter. Pourquoi exporter? Parce que les États ont besoin de faire de l'argent. Donc, on intensifie la production des arachides, des cacahuètes, selon les pays. Et on leur dit en plus, pour produire mieux, si vous achetez cette poudre des blancs, cette poudre des blancs, vous savez, ça va produire beaucoup mieux. Alors ils utilisent la poudre, comme la terre est dopée, elle produit. On est en train de la tuer, mais elle est dopée. Le paysan est ébahi, mais il dit, moi, cette poudre, moi je n'ai pas le moyen de l'acheter. C'est pas grave, on t'avance la poudre, mais tu cultives des arachides. Tu cultives des arachides, tu cultives de la canne à sucre selon les pays, les cacahuètes pour exporter, etc. Donc le paysan se retrouve à utiliser ces substances et il est endetté par rapport à la coopérative puisque la coopérative lui a remis les engrais. Quand il vend son produit, eh ben, le produit il est indexé sur le cours mondial. Lui, tout petit paysan, avec son petit truc, il est en concurrence avec le cultivateur américain sur ses centaines d'hectares. Donc il est perdant. Ensuite, étant perdant, ben, il dit à ses enfants, écoutez, il n'y a plus d'avenir ici, allez en ville. Voyez, et le sort en est jeté. Il faut savoir que la famine dans le monde, elle est due aussi à des mécanismes internationaux qui l'ont organisé véritablement. Alors vous avez des chefs d'État qui sont corrompus, vous leur amenez d'être sous table, ils sont prêts à faire n'importe quoi, ils vous livrent le pays, allez-y, faites ce que vous voulez. Ils mobilisent les paysans à l'exportation parce qu'eux, ils peuvent prélever des royalties sur l'import et l'export. Si le paysan se débrouille, il n'y a pas d'import-export. Donc il est très important de comprendre que la faim dans le monde n'est pas qu'une fatalité. Il y a eu certes, dans les années 70, une terrible sécheresse qui a affecté le Sahel, qui c'est cette bande qui est entre le grand désert et la forêt tropicale. a été affecté effectivement d'une terrible sécheresse. Mais la faim dans le monde, j'accuse le monde d'être à l'origine de la faim dans le monde. Et il faut arrêter de croire que c'est parce que nous sommes nombreux. Ça n'est pas vrai. Voilà, hier j'ai semé des raves. Vous connaissez les raves? Bon, c'est ce que c'est. Et vous connaissez la graine de rave? Il faut faire l'expérience. Prenez la graine de rave, elle est à peine, il faut presque une loupe. Et vous vous dites là-dedans, dans cette petite graine insignifiante, il y a une rave comme ça. Vous prenez un grain de blé, c'est rien du tout. Sauf si vous semez ce grain de blé, vous avez, mettons, que 5 épis. Chaque épi comporte 40 graines à peu près. Vous reprenez chaque épi, les 40 graines, ça vous en fait, si je calcule bien, ça fait 400, c'est ça. Vous ressemez ces 400 et vous avez des champs immenses. Voyez. Donc la faim dans le monde n'est pas due. Il faut arrêter de croire que c'est parce que nous sommes nombreux qu'il y a la faim dans le monde. Et donc ça, je tenais absolument à l'affirmer, parce que toutes les actions que nous menons, ce sont justement des actions qui définissent les choses autrement et qui libèrent les paysans de cette cataclysme.
Mais Pierre, ces graines dont vous parlez, ces graines dont vous parlez ne sont pas brevetées. Et donc, vous pouvez les ressemencer à volonté, car il y a bien un problème. Nous parlons d'économie, mais il y a aussi le problème de la propriété. Propriété aujourd'hui des semences.
Alors, c'est tellement grave que je vais quand même prendre un petit peu de liberté de rajouter quand même quelque chose d'important. Depuis le néolithique, c'est-à-dire 12 000 ans, au moment où l'homme est rentré en agriculture, il n'a pas arrêté de prélever dans le sauvage, de domestiquer, c'est-à-dire d'adapter à sa alimentation, d'adapter aussi bien de domestiquer des animaux que des végétaux. On a atteint un potentiel de semences il y a 2 siècles qui était absolument incroyable. C'est-à-dire que l'humanité s'était constituée une sécurité alimentaire incroyable par les échanges, etc. etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% de ces semences ont disparu. 60%. On remplace ça par les OGM, par les hybridations, à tout. Nous sommes en train, l'humanité est en train d'affamer l'humanité. C'est, je vous prie de bien entendre, c'est-à-dire que nous sommes dans un génocide, une réelle génocide. Le jour où on n'aura plus les semences reproductibles et on sera condamné aux OGM qui ne se reproduisent pas et qui produisent même des dégradations extrêmement graves dans l'environnement naturel. Les abeilles sont en train de disparaître. Les abeilles sont mal en point. Or, l'abeille a un rôle de pollinisation, de multiplication, etc. Les sols sont morts. L'eau que nous buvons est polluée. L'air que nous respirons est pollué. Donc, nous sommes dans un scénario de suicide collectif. Et ça, il faut pas le prendre à la légère. Il faut pas écouter ça, rentrer chez soi et penser à autre chose. Parce que c'est d'une gravité extrême. Et c'est là où nos politiques ont une responsabilité grave de ne pas stopper ce processus suicidaire que l'humanité est en train de s'infliger à elle-même pour qu'il y ait quelques féodaux planétaires qui ont beaucoup d'argent et tout le reste, c'est des gens qui sont condamnés à mort et les générations futures. On peut, chaque fois que je vois un enfant, j'ai presque envie de pleurer. Parce que je me dis, quel monde on va laisser à cet enfant? Est-ce qu'il va pouvoir survivre? Non. Si on continue comme ça, les enfants ne survivront pas. Donc, on n'est pas là pour faire du spectacle, on est là pour dire des choses extrêmement graves. Et si elles ne sont pas enregistrées, ça veut dire qu'on a perdu notre temps. Voilà.
Alors, Pierre Rabhi, merci. Pierre Rabhi et Carlo Petrini, nous allons nous acheminer vers la fin de cette discussion ici autour de la table, avant de donner la parole au public, le temps d'une petite demi-heure. Mais pour terminer, puisqu'il s'agit de voir comment il s'agit aussi de révolutionner finalement notre manière de penser et sans doute faire la révolution aussi dans le discours même, alors j'ai une proposition à vous faire. On dit souvent que le fermier hérite de la ferme, que le paysan hérite de la ferme, et je propose qu'on renverse, que ce soit la ferme qui hérite du paysan, de dire plutôt, eh bien, c'est la ferme qui hérite du paysan et pas le paysan qui hérite de la ferme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis d'accord. Je pense que nous avons, dans cette période historique, au niveau de la production alimentaire, deux batailles très difficiles. qu'il a besoin d'une mobilisation, d'une sensibilité planétaire, parce qu'il est devenu un problème planétaire. Il n'est pas seulement un problème d'un État, d'un pays. Les deux choses sont la propriété de les semilles, parce que si nous n'allons pas renforcer la reconquista, reconquête de la propriété des semilles, l'agriculture il est terminée et nous devenons tous esclaves des multinationales. C'est un travail très dur qui doit partir dans les communautés pour la sauvegarde de la biodiversité, pour la sauvegarde des semilles. C'est un travail que toute la communauté planétaire elle doit prendre comme problème principal.
Tout à fait.
La deuxième chose qui est encore plus difficile, mais la crise il aide, cette crise il aide, c'est qu'au niveau de produits alimentaires, nous devons détruire la logique de libre marché. C'est pas libre marché, c'est un marché de violence appliquée à l'agriculture, appliquée à la nourriture. Le libre marché, il détruit l'économie paysanne, il détruit l'économie locale. Alors, je viens d'un voyage dans le Mexique. Vous savez que la révolution mexicaine avec Emiliano Zapata tenait un mot, tierra y libertad. Tierra y libertad. Maintenant, les paysans, avec la réforme, ils sont propriétaires de la terre, mais sont les plus pauvres et malnutris de Mexico. Pourquoi le libre marché, il permet à l'économie mexicaine, le pays où il est né, le maïs, il est né en Mexico. Maintenant, les 36% du maïs pour manger les Mexicains, il arrive de l'Amérique avec les multinationales, avec les Danone, avec les Nestlé, avec les grands multinationales. Pourquoi ? Les libres marchés. Ah, les libres marchés, non. Avant tout, nous devons défendre l'agriculture locale et notre paysan. Après les libres marchés. Si le libre marché détruit l'économie locale de l'agriculteur, nous ne pouvons pas réfléchir sur des choses comme ça. Nous n'avons pas la puissance d'expliquer ça. Et nous allons avoir des choses incroyables. Le pays où est né le maïs, il est dépendant du maïs transgénique qui arrive dans les États-Unis. Non. Alors, défense des semilles et destruction ou reconversion de le libre marché qui ne doit pas être comme ça au niveau alimentaire, c'est les deux choses plus importantes pour la politique mondiale. Et nous avons besoin que tout le monde va parler de ça, parce qu'il est la notre vie. Ce n'est pas la vie des paysans, c'est la notre vie aussi.
Il y a juste une petite précision pour aller encore. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent sont en train de confisquer à l'humanité la terre. Vous ne pouvez pas savoir les investissements qu'il y a aujourd'hui sur l'accaparement, c'est-à-dire que c'est un hold-up légalisé. C'est-à-dire une confiscation du bien commun, c'est-à-dire de ce bien dont on n'a besoin que provisoirement, parce qu'on n'est quand même pas éternel. Eh bien, ce bien-là, aujourd'hui, il y a des cartels internationaux qui sont en train de le racheter et de le confisquer à l'humanité. Et je crois que ça, c'est vraiment un point qui est absolument fondamental si nous voulons comprendre le futur.
Pierre Rabhi, Carlo Petrini, merci d'avoir accepté cette conversation. Merci aux auditeurs d'avoir suivi cette émission. C'est une émission donc en direct et en public des Grandes Tables. La suite du programme de Radio Grenouille, Cuisine en friche, c'est demain à 19h pour un prochain nouveau face-à-face, cette fois-ci avec Pascal Horry et Emmanuel Giraud autour du banquet. Une réflexion autour du banquet, c'est donc demain, ici aux Grandes Tables, en direct et en public. Quant à nous, nous allons continuer cette discussion avec vous, si vous le voulez bien. Merci.
Vendredi 13 septembre, suivez le face-à-face en public et en direct des Grandes Tables à l'occasion de Cuisine en friche. Une rencontre entre le paysan, philosophe et essayiste Pierre Rabhi et Carlo Petrini, journaliste et fondateur de l'association Slow Food. Animé par un journaliste de Radio Grenouille, retrouvez cette rencontre sur les ondes de Détroit 8 le vendredi 13 septembre à 19h et sur radiogrenouille.com.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.